L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi, rediffusée à 18h. Aujourd'hui, on retrouve un invité à double casquette. On le connaît comme caricaturiste sous le pseudonyme de Blequin, mais il est aussi philosophe et historien de Brest. Il nous avait conté les Américains à Brest en 1917, ce qu'ils avaient apporté et ce qu'on ne leur devait pas vraiment. Il avait déjà fait tomber des idées reçues alors, et il revient aujourd'hui pour ça justement, pour faire tomber quelques idées reçues sur cette bonne cité du Ponant. Car c'est comme ça, toutes les villes ont leurs légendes, plus ou moins vraies. Elles servent sans doute à vendre la ville aux touristes ou à se faire mousser à l'apéro. Mais les historiens comme Benoît Quinquis sont là pour rétablir les faits. C'est leur carburant, les faits. Notamment le carburant de Benoît Quinquis. Bonjour Benoît.
Bonjour Madame Museau.
Nous allons commencer par la plus célèbre de ces légendes, l'expression « tonnerre de Brest » qui viendrait du coup de canon qu'on tirait pour signaler l'évasion d'un bagnard. Alors.
Eh bien en fait, ce n'est peut-être pas aussi simple. On a aussi invoqué le souvenir d'un autre coup de canon, celui qui annonçait l'ouverture et la fermeture des portes de l'arsenal. Mais d'après Bruno Calves, et on n'en parle pas assez, la formule viendrait de bien plus loin que ça. Voilà, il faut vous parliez des faits, en voici. Dans la nuit du 15 avril 1716, à 4h du matin, l'orage éclata au-dessus de la région brestoise. 24 clochers furent frappés par la foudre, dont celui de Gouesnou, qui, ferrarissime, fut même traversé par des boules de feu. 3 sonneurs de cloches furent tués. Et André-François Bourreau des Landes, commissaire de la marine à Brest, fit part de ses observations à l'Académie royale des sciences sur cet orage qui avait tout lieu d'impressionner. Telle aurait été, selon Auguste Moulieras, l'origine de l'expression « tonnerre de Brest ». Une expression qui était longtemps oubliée jusqu'à ce que Bruno Calves justement la remette au goût du jour.
Donc voilà, c'était un vrai tonnerre finalement. C'était pas du tout du canon, ce tonnerre de Brest.
Après, peut-être que les deux coups de canon dont j'ai parlé ont renforcé l'image de l'expression, mais apparemment l'origine viendrait de bien plus loin que ça. Donc
ouais, ça entretenait, disons. Le bagne était destiné, alors le bagne de Brest, bien sûr, était destiné à accueillir les plus dangereux criminels. On a l'image des bagnes, en fait.
C'est faux. Rappelons d'abord que le bagne n'était même pas la plus inhumaine des détentions que Brest ait connue. Conçue, parce que Brest, malheureusement, a eu un passé chargé en matière de prison, avec celle du château, les pontons, celle du Bouguin, des prisons sinistres.
Et il était où, le bagne, précisément ?
Sur les rives de la Pinfel. Mais voilà comment il était. Conçu par l'architecte Antoine Choquet de Lindu et ouvert en 1749, c'était pour l'époque une merveille de modernité. Il y avait des latrines, des égouts, de l'eau courante et deux ailes furent même dédiées à l'accueil des invalides. Alors bien sûr, c'était pas un palace, mais il y avait des soucis d'hygiène et de confort relatifs qui suffit à écarter l'idée qu'il n'était destiné qu'à n'accueillir que l'élite d'humanité. Ensuite, les bagnards condamnés aux travaux forcés pouvaient exercer presque tout type d'emploi en ville en fonction de leurs compétences, y compris donner des leçons de musique.
Ah bon, ça pouvait être ça les travaux forcés, donner des leçons de musique.
Et oui, vous n'imaginez quand même pas qu'on aurait confié une telle tâche à un meurtrier récidiviste, non ? Et d'ailleurs, voici quelques chiffres. Sur les 988 forçats arrivés à Brest en 1749, on ne compte que 6% de meurtriers et incendiaires. Et ils ne devaient même pas être les plus terribles, puisqu'ils ont échappé à la peine capitale. À l'époque, Robert d'Anter n'était pas né.
Est-ce qu'on doit comprendre qu'on enfermait les gens un peu pour n'importe quoi ?
Ça, c'est évident, parce que si certains méritaient amplement leur sort, parce que bon, c'était pas non plus le chemin de la gagne, beaucoup étaient quand même enfermés pour des années, pour le vol d'un quignon de pain, par exemple.
Ou pour des raisons politiques à cette époque aussi, ou pas ?
Oh ça, évidemment. Encore que, pour les prisonniers politiques, notamment les communards, on a préféré utiliser les pontons qui devaient les porter vers certaines détentions. Donc.
Le bagne outre-mer, c'est ça ?
Ben oui.
Outre-océan. Toujours en prison, puisqu'on y est, la prison de Pontagnou, donc, un vestige du bagne. Et est-ce qu'elle a été bâtie sur le site d'un ancien couvent ? Alors, est-ce qu'elle est un vestige du bagne et est-ce qu'elle a vraiment été bâtie sur un ancien couvent ?
Non, non et non. Premièrement, alors qu'il ne reste plus rien du bagne, la prison de Pontagnou, elle, est toujours visible. Et la différence ne s'arrête pas là. Quand la prison fut inaugurée en 1811, le bagne, lui, était déjà en service depuis 62 ans. Et surtout, la fonction n'était pas la même. Le bagne n'accueillait que des forçats condamnés par la justice civile, tandis que la prison de Pontagnou était une prison maritime, où l'on enfermait les personnes condamnées par la justice militaire. Avec le refuge royal qui est à proximité, ça fait donc à peu près dans la même zone trois lieux de détention fort distincts les uns des autres et qu'il ne faut surtout pas confondre. Mais dont évidemment la confusion est difficile.
Et le refuge royal, c'était pour enfermer qui ?
C'était pour enfermer les femmes débauchées ou présumées telles. C'est là qu'aurait été enfermée notamment la belle Tamisier qui aurait mis le feu à l'édifice. Mais on n'a pas de preuves.
C'était une prison de femmes.
Bah oui.
Pourquoi on l'appelait le refuge royal ?
Bah parce que parce qu'il avait j'ai envie de dire il fallait bien lui donner un nom. Je ne sais pas exactement, donc c'est vrai que refuge c'est un doux euphémisme pour un lieu de détention où on marquait les femmes au fer rouge, où on leur faisait des travaux assez et durs, donc elles étaient surveillance des bonnes sœurs qui ne devaient pas rigoler, donc royal bah, simplement parce qu'il avait été construit sous l'autorité et royal, donc
Et donc cette prison de Pontagneux n'a pas été construite sur le site d'un ancien couvent.
Non. Avant la prison, il y avait une fonderie, point barre. Mais bon, la légende du couvent vient peut-être effectivement d'une confusion avec d'une part l'atelier des Capucins qui se trouve à proximité, et peut-être d'une autre confusion avec le refuge roi Ayal qui était géré par les sœurs de, enfin, qui était géré par les sœurs de Saint-Thomas de la Villeneuve. Donc.
Ah oui, c'est parce que comme il y avait des sœurs au refuge royal, on pensait couvent, quoi, voilà.
Bah, il y avait une confusion possible parce que du fait de la proximité. En D'accord. tout cas, le simple fait qu'il y ait eu ces trois lieux de détention sur la zone confirme que le passé carcéral de Brest est chargé, donc.
Et il y avait d'autres prisons ailleurs, sinon, ou c'était vraiment le coin des prisons, le quartier des prisons.
Bah, comme je disais, il y a eu la prison du château, qui était assez terrible, où fut enfermé notamment Cadoudal pendant la Révolution, donc et aussi la prison du Bouguin, donc et aussi les pontons, ces prisons plus temporaires qui étaient des anciens bateaux qui ne naviguaient plus et où l'on mettait donc on a mis notamment les communards en attendant leur détention, donc un passé est chargé. Aujourd'hui à Brest il n'y a plus que la maison d'arrêt de l'ermitage qui n'est même pas une prison terrible puisqu'on y met que les peines courtes, les autres vont vers la prison centrale, donc de ce point de vue là donc on a fait une croix sur le passé, donc
Brest a bien changé, bah tant mieux hein, finalement de ce point de vue là en tout cas. Alors on va sortir de prison, on va aller au cinéma. Peut-être pas le cinéma. Le Comédia, est-ce qu'il a été le premier cinéma brestois ?
Beaucoup de gens le croient, je m'en suis aperçu quand j'ai fait des recherches là-dessus, mais c'est faux. Le théâtre Comédia ne fut bâti qu'en 1949 et ne devint salle de cinéma qu'en 1962.
Donc c'était un théâtre ?
Bah oui, à la base. Et vous pensez bien, il y a eu d'autres cinémas avant. Le cinéma était connu à Brest depuis 1896, soit à peu près l'année où les Frères Lumière l'avaient avant hanté. En fait, il a été découvert grâce aux forains. À Brest grâce au forain, et la première vraie salle de cinéma fut ouverte le 27 septembre 1907 dans le Casino Brestois, qui était une salle de café-concert aménagée depuis 1896 au 11 rue de Siam. Elle a été monopolisée par les vues Pâté Frères et a pris le nom d'Omnia Pâté. En 1935, elle rouvrit après une transformation complète. La façade était désormais en céramique et était ornée du fameux coq pâté. Mais surtout, elle a eu des fauteuils en velours qui remplacèrent avantageusement les fauteuils en bois et en donnant un confort inédit aux spectateurs. Elle a été rasée pour la Seconde Guerre mondiale. La salle a été rebâtie de l'autre côté de la rue de Siam, à peu près à la même hauteur. Elle rouvrit le 19 décembre 1957. Elle a été laissée à l'abandon dans ces dernières années et fut définitivement démolie en 1989 pour être remplacée par un complexe hôtelier. Quant au Comédia dont on parlait tout à l'heure, après une longue période de déshérence, aujourd'hui il accueille une galerie d'art. Donc.
Il a quand même été cinéma, mais plus tard. En tout cas, c'était pas le premier.
Ah, pas du tout.
Ok, alors les ambassadeurs de Siam, alors ça c'est encore une légende vraiment très connue et apparemment très tenace de l'histoire de Brest. Les ambassadeurs de Siam, donc qui étaient...
la Thaïlande pays, actuelle.
Voilà, la Thaïlande, ont monté à dos d'éléphant la rue qui allait prendre le nom de leur pays. Alors.
Eh bien c'est faux. Alors,
on voilà est déçus là.
Eh oui, beaucoup de gens sont déçus quand on dit ça, beaucoup de gens y croient. Hein. Mais voilà les faits. Le 18 juin 1686... Les navires L'Oiseau et la Maligne regagnèrent le port de Brest avec à leur port les ambassadeurs du royaume de Siam, dont le fameux Koh Sapan, dont le buste trône depuis février 2020 en face de la station de téléphérique. Mais il n'y avait pas d'éléphant à bord de ces bateaux. Pourquoi ? Parce que le roi de Siam, Narai le Grand, avait déjà tenté d'envoyer des spécimens de ses pachydermes au roi de France en 1681. Mais le navire avait coulé. Les techniques de navigation ne permettaient pas de transporter de tels animaux sans danger. La vie des ambassadeurs était trop précieuse pour qu'on prenne le risque de retenter l'opération. Parce que le sel des éléphants, hein. Bon, de toute façon, le cortège des ambassadeurs était déjà assez fastueux pour impressionner vivement la population.
Qu'est-ce qu'il y avait dans ce cortège alors ?
Toutes les draperies, toutes les dorures, toutes les merveilles qu'on pouvait amener. Et d'Orient, donc un cortège fastueux avec des musiciens, des danseurs, donc de quoi impressionner vivement des gens qui n'avaient jamais vu ça. Hey, ils allaient rencontrer le roi Soleil, il fallait en mettre plein la vue. Hein, donc
ils ont bien remonté la rue qui...
Non. Justement, ce n'est même pas la rue de Siam actuelle qu'ils ont pu remonter, pour la bonne raison qu'elle n'existait pas encore. Elle ne fut tracée qu'en 1694, 6 ans plus tard, sur le plan Brest conçu sous la direction de Vauban. Mais c'est normal que cette légende soit à tenace, parce que, mine de rien, Brest a un privilège incroyable. Quand vous descendez de la place de la Liberté et que vous vous retrouvez face à la rue de Siam, vous avez le ciel en plein un centre-ville. C'est très rare dans une grande ville, donc en France, et même dans beaucoup d'autres pays. On a une perspective unique qui plonge directement sur la rade. C'est quand même assez incroyable. incroyable, d'autant que depuis qu'on a le tram, ça a été considérablement embelli. Donc, une vision pareille, ça appelle forcément des fantasmes, des légendes. Donc.
Mais sans éléphant. Et ceci dit, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé rue de Siam alors ? C'était quand même parce que c'était pas loin le cortège qui est passé.
C'était en souvenir effectivement de cette visite qui avait tout impressionné et qui avait marqué les populations.
Qui a bel et bien existé, la visite, en tout cas.
Ça voilà. Oui, c'est indiscutable.
Alors, le jazz, on en avait parlé un petit peu, mais on va en redire un mot. Le jazz est arrivé en France par Brest, où James Rees Europe joue une version swingée de la Marseillaise.
Eh bien, ce n'est peut-être pas vrai. Donc,
certes, peut-être.
James Rees Europe, figure marquante de la musique noire, s'engagea dans l'armée au moment de l'entrée en guerre des États-Unis en 1917 et forma un orchestre au sein de son régiment où il obtint le grade de lieutenant. On les appelait les Harlem Hellfighters. Okay. Alors certes encore, avant de rejoindre le front de l'Est, il transita par Brest, de même que plus de 800 000 autres soldats américains entre 1917 et 1919. En revanche, pour authentifier la légende de la Marseillaise swingée, il manque quelque chose de très simple qui tient en deux mots, des preuves matérielles. On n'en a pas. En fait, on ne sait pas vraiment ce que James Rees Europe a joué sur les quais, ni même comment. Et de toute façon, son régiment ne restait à guerre plus de 3 mois à Brest, après quoi il fut envoyé au front. Bon, officiellement, les soldats noirs n'avaient pas droit de combattre, mais c'était encore la ségrégation pour les États-Unis. Mais l'armée française ne faisait pas genre subtilité, et donc les noirs ont combattu aux côtés des troupes françaises. Donc
il y a bien eu un concert quand même de James Rees Europe sur les quais de Brest.
On n'en est même pas sûr, en fait.
Ah, donc, oui. Mais comment c'est venu cette légende alors?
C'est tout simplement parce que James Rees Europe a été une figure marquante de la musique noire aux États-Unis. Donc, c'est notamment lui qui a notamment réussi à jouer au Carnegie Hall et a fait donc un bastion historique de l'élite blanche. Donc, il a vraiment donné ses lettres de noblesse à cette musique-là. Et le fait qu'il passe par Brest en même temps que d'autres soldats américains, c'est un motif de fierté. Et donc, normal que des fantasmes se greffent là-dessus. Donc,
Ah oui, et la Marseillaise, c'est pareil, c'est pour rajouter du fantasme au fantasme, en fait.
Parce que la Marseillaise swingée, ça existait, Django Reinhardt l'a fait, donc pourquoi un autre jazzman n'y aurait pas à penser ? D'autant que la France, ce pays où il n'y avait pas de ségrégation officielle, devait passer quasiment pour un Eldorado aux yeux des Noirs qui avaient subi au quotidien la ségrégation, qui n'avait droit à rien. Donc, Mais bon, de toute façon, le passage à Brest de Europe n'a pas dû être si marquant qu'on le lit, quand bien même il aurait joué ça, puisqu'en 1917, la musique noire était déjà connue en France, y compris à Brest, où l'on jouait même du ragtime. Alors, c'est donc pas à Brest que le jazz arriva en France, non. Désolé pour notre esprit de clocher.
Eh oui, ça, mais il faut réécouter l'émission qu'on avait faite précédemment, justement, sur les Américains en 1917 à Brest. On va rester en Amérique, enfin, aux États-Unis. Quand on est devant le monument américain, donc c'est sur le cours d'Ajot à Brest, est-ce qu'on se trouve en territoire américain, comme on peut l'entendre parfois ?
Toujours non. Voici les faits. Le 15 octobre 1926, la mairie de Brest décida d'accorder à l'American Battle Monuments Commission un terrain de 4623,63 mètres carrés. En 1930, la parcelle fut concédée à perpétuité et à titre gratuit pour y ériger un monument américain commémorant l'action des forces navales américaines dans les eaux européennes de juin 1917 à novembre 1918. Donc, quand on se trouve côté cours d'Ajot sur l'esplanade du World War I Naval Monument à Brest, c'est l'appellation exacte, désolé pour mon accent, on se trouve nullement en territoire américain. Certes, l'entretien du lieu est assuré par un jardinier payé par le gouvernement américain, mais si l'usage est américain, le terrain n'en est pas moins territoire français à part entière. La ville de Brest ne fait que prêter la parcelle. Mais bon,
ce qui fait croire ça, c'est parce qu'il y a, par exemple, les cimetières en Normandie sont du territoire américain. C'est à cause de ça, non ?
Ça doit être ça aussi. Mais vous savez, c'est aussi parce que le phénomène de l'enclave, c'est un phénomène passionnant quand même. L'enclave d'un pays étranger au sein d'un pays, c'est une source de complications administratives, mais c'est aussi une curiosité qui rend le cadre intéressant. Donc,
oui, on peut dire je suis allé en Amérique aujourd'hui, quoi. C'est ça, sans trop bouger.
On peut dire ça, oui. C'est aussi une façon pour Brest d'affirmer ses différences en tant que grand port. Donc, même si vous permettez, j'aimerais continuer sur le monument américain. On dit aussi qu'il a été détruit par les Allemands pendant l'occupation, puis reconstruit à l'identique après la libération. Mais c'est faux. Cette légende est entretenue par l'inscription gravée sur l'esplanade qui va jusqu'à affirmer que la destruction eut lieu le jour même de la fête nationale américaine, ce qui en ferait une provocation d'autant plus intolérable qu'elle précéderait de 5 mois la déclaration de guerre allemande aux États-Unis. En fait, ce sont les bombardements britanniques de 1941 qui ont raison de la tour. L'occupant n'a eu qu'à terminer le travail en délimitant la partie inférieure l'année suivante. Et la tour suivante n'est même pas tout à fait identique à la précédente, puisqu'elle a été bâtie en granit de la Clarté et non en granit rose de Trahuillero, ce qui lui donne une teinte plus rougeâtre. Elle est légèrement plus haute que celle d'avant, puisqu'elle se dresse sur un bunker allemand, ce qui est déjà un symbole en soi.
Et à propos d'occupation, puisqu'on l'a mentionné, une autre légende brestoise, pendant l'occupation, une synagogue de Brest a été transformée en maison close. Alors déjà, je ne savais pas qu'il y avait des synagogues à Brest. Qu'en a-t-il eu ?
Eh ben, c'est triplement faux cette histoire. C'est une mythe, c'est un mythe qui a lié dur, qui a vie dure. Même le journal Libération l'a présenté comme un fait réel dans sa légende à cette photo issue du fond du Dutch Bundesar Archive, qui représente une maison close située aux trois rues Guyot et dont la façade est ornée d'étoiles à six branches. Mais prenons les choses dans l'ordre. Premièrement, pour répondre à votre question, quand la Wehrmacht arriva à Brest, il y avait fort peu de juifs. Le recensement imposé par les nazis en 1941 ne faisait état que de 19 personnes, dont une seule était née à Brest. Même en tenant compte d'un éventuel exode à l'approche de l'armée du Reich, ça fait peu de monde. Deuxièmement, pour la synagogue justement, en fait, pour trouver un lieu de culte juif clairement identifié comme tel à Brest, il faut consulter le plan de 1861 où une synagogue est effectivement localisée dans la grande rue. Non seulement on ne la retrouve pas sur des plans ultérieurs, mais de surcroît, l'emplacement, qui correspond à peu près au croisement de la rue Traverse et de la rue Pasteur, ne concorde pas avec celui de la maison close à l'étoile à six branches. Troisièmement, enfin, il est attesté que le 3 rue Guyot était déjà l'adresse d'une maison de tolérance depuis le 1er octobre 1897. Il n'y a jamais eu quelque lieu de culte que ce soit à cette adresse, et quand la botte allemande s'abattit sur Brest, l'endroit était déjà dévolu à la prostitution depuis près d'un demi-siècle. Quand on était à six branches qui en ornent la façade, elle datait de la rénovation de 1934. Alors pourquoi ces ornements ? Encore un mystère. Hein.
Et donc, la synagogue de 1861, c'est ça Elle est toujours... Enfin non, elle...
Ah, on n'en a aucune trace.
Ah oui, c'est ça.
Oh, non, on ne la retrouve pas sur les plans ultérieurs, on ne sait pas ce qui est devenu. Donc...
Bon,
il y avait peu de juifs à Brest, de toute façon.
Oui, et on sait combien il y avait de maisons closes
oh là,
à l'époque.
Le nombre exact, je ne sais pas, mais beaucoup. La prostitution a longtemps été une activité très florissante à Brest, donc, notamment au XIXe siècle, du fait de la misère qui régnait. Donc, et c'était essentiellement des femmes des filles du coin qui exerçaient. Ça a connu une vraie explosion pendant la Première Guerre mondiale du fait de la présence américaine. Donc, et quand les Allemands sont arrivés, ils n'allaient pas se priver non plus. Hein.
Mm-hmm. En effet, oui, bien sûr.
Le nombre exact, je ne peux pas vous le dire.
Il n'y a pas de raison. Ces soldats allemands, justement, qui étaient à Brest pendant la bataille de 1944, on dit qu'ils venaient de troupes d'élite fanatisées. Alors, apparemment, ce n'est pas vrai, mais en plus, c'est intéressant de savoir pourquoi on dit ça.
Pourquoi on dit ça ? Parce que, c'est vrai que c'est vrai que l'état-major allemand, notamment le fameux général Ramke qui commandait la forteresse brestoise, s'est acharné déraisonnablement. Ils donnaient vraiment l'impression d'être prêts à combattre jusqu'à mourir. Mais bien sûr, ce n'est pas si simple. Déjà, à la mi-août 1944, les journaux de guerre allemands trahissaient le moral chancelant des troupes, posant la question « Combien de temps vont encore durer ces combats sans espoir ?» Du côté des chefs, on nourrissait guère plus d'illusions. Le 16 août, alors que les alliés occupaient déjà le bourg de Plougastel et bombardaient la périphérie de Brest, les officiers allemands ordonnèrent la destruction des quais du port de commerce. Autant dire qu'ils s'apprêtaient à quitter les lieux sans rien laisser à leurs adversaires. Et de façon générale, la combativité des militaires allemands à Brest se révéla plus qu'émoussée. Quand le 17 août, les Américains s'emparèrent du poste de Carbone, les Allemands se seraient, selon Antoine Coste, rendus tout joyeux et auraient même tendu la main à des vainqueurs fort étonnés de cette amitié subite. Même le redoutable général Ramke, dont je viens de parler, il se réfugia à la pointe des Espagnols avant de se rendre le 19 au général Middleton pour qui il avait de l'estime et avec qui il continuera à correspondre après la guerre. Pas mal pour un prétendu fanatique, non ? D'ailleurs, quand on voit la photo de sa reddition, il n'a pas l'air si malheureux.
Et cette bataille de 44, pour revenir dessus, elle a duré combien de temps, en fait ? Et comment elle s'est traduite, concrètement ?
Elle s'est traduite par au moins deux mois de tapis de bombes, de pilonnage continu, où la plupart des civils sont sortis de Brest. Les rares qui sont restés sont réfugiés dans des abris et ont survécu du mieux qu'ils pouvaient. Donc, ça s'est traduit par la destruction quasi totale de la ville. Brest, dont il ne reste rien, comme disait Jacques Prévert. Bon, il en reste quelque chose, mais pas énormément.
Et deux mois, c'est long. Hein. C'est ça aussi. Hein. Et il a fallu dire, si on veut voir un peu ce pilonnage, c'est au château, non, qu'on peut voir ça, non, il me semble.
Oh, on peut trouver facilement sur le site des archives municipales, notamment des photos de Brest détruites. Et on se rend compte de l'ampleur des dégâts, oui. Donc, ça fait froid dans le dos.
Et justement, il a fallu la reconstruire. Et on dit souvent, alors c'est vrai que une reconstruction rapide, c'est pas forcément esthétiquement très convaincant, mais on dit souvent que le béton a été suremployé pour reconstruire Brest. Alors, Benoît Quinquis, est-ce vrai ? Est-ce pas vrai ?
Alors déjà, le béton tel que nous connaissons aujourd'hui n'a pas attendu 1945 pour apparaître à Brest. Il y fut utilisé dès 1899 par l'architecte Albert Loupe pour construire des moulins. L'inauguration du premier pont de Plougastel, le pont Albert Loupe, donc le pont piéton actuel, fut une démonstration de force pour le béton, qui fut fut aussi employé pour la gare et l'hôpital Morvan. Ce matériau montre ainsi qu'il était malléable et capable de légèreté. Deuxièmement, pour la reconstruction, le béton fut employé beaucoup plus parcimonieusement qu'on ne le croit. Pourquoi ? Mais parce qu'en cette période d'après-guerre, le ciment était rare. Il y avait peu d'entreprises sur place qui avaient les moyens de le traiter. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Jean-Baptiste Maton, l'architecte de Brest du Brest d'après-guerre, ne s'intéressait pas à ce matériau. Alors, par conséquence, celle qu'on appelait Brest la Blanche ne faisait de couleur à l'enduit de ciment dont avaient été recouverts les bâtiments, et le béton fut réservé aux ouvrages prestigieux comme le pont de recouvrance ou l'hôtel de ville. Ce ne fut que dans les années 1960-70 que le béton commença à être utilisé de façon intensive, suivant une politique indispensable pour loger les Brestois, qui en 1957 étaient encore 25 000 habités en baraque.
Oui, c'est ça.
Et puis l'usage du béton n'a pas forcément débouché sur des bâtiments sinistres. Il fut employé pour des cinémas, des stations-service, des piscines, des salles de spectacle comme la Carène, et même pour l'auberge de jeunesse, où le béton est caché par le bois. Et pourtant, personne ne qualifiera de stalinienne l'architecture de cet édifice. Bref, finalement, l'usage du béton fut assez raisonné.
Oui, cette reconstruction n'a pas été si rapide que ça, en fait, c'est ça aussi.
Non, vous pensez bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il fait, parce qu'effectivement, ne serait-ce que je vous parlais de l'habitat en baraque, qui a longtemps persisté. Ce n'est qu'en 1984 que la dernière baraque encore habitée a été quasiment abattue. Et encore, il en reste une visible dans le quartier de Saint-Marc. Donc, c'est un habitat provisoire qui a duré.
Et c'était en quoi, ces baraques, en bois ?
En bois, oui. En bois. Bon, il y avait un confort relatif. Beaucoup de gens ont été nostalgiques de cet habitat.
Ah oui. Bon, on y reviendra peut-être. Allez savoir.
J'espère que non.
Non, des baraques en bois confortables, évidemment, comme on sait les faire aujourd'hui. Et alors, y a-t-il une cathédrale à Brest, Benoît ?
Eh ben non. Certaines personnes de passage à Brest disent le contraire, mais ce qu'ils prennent pour une cathédrale n'est qu'une église. Une église de dimension, il est vrai, monumentale, puisque c'est l'église Saint-Louis, qui mesure 85 mètres de long, 27 de large et 24,5 de haut. Elle fut bâtie après la Libération pour remplacer l'église qui avait été brûlée par l'occupant. Alors oui, les Allemands étaient persuadés qu'il y avait des résistants qui s'y cachaient. On n'a jamais su si c'était vrai. La construction de l'ancienne église avait pris 159 ans, avec de nombreuses interruptions dues aux vicissitudes de l'histoire. Les travaux avaient débuté en 1698, sous Louis XIV, d'où le nom de Saint-Louis, et n'avait vraiment pris fin qu'en 1856. 159 ans pour seulement 88 ans de service.
En effet.
Donc, les Allemands y ont mis le feu le 14 août 1944, dans la nuit, les murs résistèrent assez bien au sinistre et le bâtiment aurait pu être restauré. Mais il fut décidé de tout raser pour rebâtir du neuf. On retint le projet du cabinet d'Yves Michel qui était inspiré par l'église Saint-Antoine de Bâle. La première pierre fut posée le 29 janvier 1955 et l'édifice fut consacré le 25 avril 1958. C'est la plus grande église reconstruite en France. Je dis bien église, pas cathédrale. Pourquoi ? Parce que c'est un abbé qui officie, pas un évêque. La paroisse de Brest, dépendant du diocèse, qui a son siège à la cathédrale Saint-Corentin de Quimper. Il est vrai que l'église Saint-Louis est si imposante qu'on peut s'y tromper. D'ailleurs, s'il est imposante comme ça, c'est justement dans le cadre de la concurrence entre Brest et Quimper.
Oui, c'est ça. Oui, parce que Brest n'a jamais été un évêché, de toute façon.
Jamais.
C'est ça. Donc, il n'y aurait jamais eu de cathédrale.
Ah non, il n'y avait pas de raison.
C'est ça. Et on a parlé du béton. Il n'y a pas trop de problèmes de maladies de béton sur les bâtiments historiques comme ça ou,
Pas à ma connaissance.
Bon, alors il nous reste un petit peu de temps. Est-ce qu'il y a d'autres idées reçues sur lesquelles on pourrait revenir ou qu'on n'a pas mentionnées éventuellement, Benoît ?
Je peux citer quelque chose qui va vous surprendre. Contrairement à ce qu'on croit, Brest fait partie de ces villes où le taux de cancer de la peau est le plus élevé. Ça peut sembler surprenant, mais en fait, c'est vrai que finalement, le taux d'ensoleillement en étant assez faible, les gens ne prennent pas forcément la peine de se protéger. Mais on ne se rend pas compte, même si c'est courageux, il peut y avoir des UV. Et quand il y a grand soleil, c'est vrai que les gens ne sont pas forcément prudents. C'est une nouvelle qui est assez surprenante, j'en conviens.
Et d'autant plus que de toute façon, en plus, il y a de plus en plus de soleil à Brest. On va retrouver Benoît Quinquis chaque trimestre dans notre émission. La prochaine fois, ce sera le 19 décembre. Il sera question des Brestoises remarquables, des femmes. Donc, on remontera jusqu'à loin, Benoît ?
Oh oui, enfin, sans doute. Si on remonte déjà jusqu'à la belle Tamisier, dont j'ai parlé au XVIIIe siècle, encore qu'on sache peu de choses d'elle, on peut peut-être même jusqu'au Moyen-Âge. Oui. Je ne sais pas encore, j'aurai la surprise.
Eh bien, très bien. En attendant, n'hésitez pas à réécouter cette émission sur le site internet de Radio Évasion.